J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs de Radio Bartas, bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt. Bonjour Lucille.
Bonjour Virginie.
Eh bien Lucille, de quoi allons-nous parler dans cette émission s'il te plaît?
Alors aujourd'hui on va parler du Sentier du Martinet qui se trouve sur la commune de Saint-Étienne-Palais-Française. Et pour en discuter, on va accueillir Frédéric Gall qui travaille à l'Office National des Forêts. Et ensuite on retrouvera Aymeric Chelmont qui est garde-moniteur au Parc National des Cévennes pour sa chronique Plante des Bois. Et bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je me permets d'ouvrir une parenthèse, puisque la chanson que nous venons d'entendre de Georges Brassens est une formidable introduction pour cette émission.
Merci à Georges.
Alors, je me présente. Donc, Frédéric Gall, je suis technicien forestier territorial à Saint-Étienne-Palais-Française, dans les Cévennes lozériennes, rattaché à l'unité territoriale de Florac. Et du coup, en gestion, j'ai la forêt domaniale des Gardons sur une superficie de 2224 hectares. Et donc la forêt de la communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère sur 51 hectares qui va être l'objet principal de la discussion de ce jour puisque, comme le disait Lucille, le sentier du Martinet se situe effectivement à Saint-Étienne-Palais-Française. Et dans cette forêt de la communauté de communes.
Merci. Alors, justement, on va parler donc de ce sentier, hein, une idée de balade du moment. Et donc, c'est intéressant pour les auditeurs de savoir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Mais d'abord, comment est né ce projet de sentier d'interprétation qui est dédié à l'espace forestier, hein? Parce que, bon, on a beaucoup de forêts en Cévennes, mais c'est vrai que c'est rare d'avoir de l'interprétation de la forêt sur site. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous parler de l'historique de ce projet, quelles ont été les étapes?
Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, pour rappeler le contexte, donc effectivement, la communauté de communes est propriétaire de cette forêt et elle a fait le choix de valoriser cette forêt via l'accueil du public. Et donc elle bénéficie d'un aménagement forestier. Donc c'est un document de planification sur lequel s'appuie la gestion forestière à l'échelle de chaque forêt publique. Et donc, il permet d'appliquer localement, sur une échelle de 20 ans, les enjeux associés aux différentes fonctions de la forêt et les traduit notamment en programme de travaux forestiers et de récolte de bois. Voilà, ça, c'était important à dire. Mm-hmm. Donc, l'ONF, l'Office National des Forêts, gère cette forêt depuis 1987, avec comme vocation première, comme je l'ai dit précédemment, l'accueil du public. Et donc, il y a eu un souhait du propriétaire à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'était en 2004, justement de créer un sentier à but éducatif. Et le temps faisant son chemin, il a été proposé à la communauté de communes de réhabiliter ce sentier. Voilà. Donc, en rentrant dans le détail... Donc ce travail, il s'est fait de façon collective avec la communauté de communes, bien entendu, propriétaire, l'Office du tourisme, qui a énormément œuvré pour la conception de la plaquette, la mise en page, les employés intercommunaux qui se sont beaucoup investis également pour ce sentier, que ce soit pour la réfection de la plateforme, le débroussaillement, le nettoyage des anciennes plaquettes, j'y reviendrai après. Et bien entendu, la charte forestière, qui a été un partenaire incontournable pour la réhabilitation de ce sentier.
Et du coup, votre rôle est celui de l'ONF dans ce projet ?
Alors donc, l'ONF, donc pour organiser la fréquentation touristique dans un site naturel, elle accompagne les propriétaires forestiers et les collectivités souhaitant établir une stratégie d'accueil.
Voilà, ok.
Donc, on a proposé à la communauté de communes, en échange bien entendu et en liaison avec la charte forestière, de réhabiliter ce sentier. Donc ce sentier, comme je l'ai dit précédemment, qui avait été créé en 2004. Donc c'est un sentier éducatif où chaque essence en bordure de chemin est indiquée avec des plaquettes. Donc ces plaquettes, étant un petit peu passées avec le temps, donc elles ont été reprises une par une, nettoyées. Ensuite, les supports à l'époque qui étaient en châtaignier, il était nécessaire de les remplacer. Donc il a été fait le choix de les remplacer par du robinier faux acacia. Pourquoi ? Parce que c'est une essence intéressante, imputrescible, et surtout qu'on a pu avoir localement, parce que l'idée c'était de travailler avec des bois locaux. Donc ces poteaux ont été exploités en forêt également de la communauté de communes sur le territoire communal de Sainte-Croix-Vallée-Française, en bordure de la zone artisanale. Et ensuite, ils ont été façonnés et biseautés par un élu, M. Pierre Plagne, accompagné de Mme Nathalie Trémel, qui à l'époque était l'animatrice de la charte forestière.
Comme quoi les animatrices chartes forestières sont très polyvalentes.
C'est ça.
Et donc tu viens de nous parler du sentier. Qu'est-ce qu'on y trouve comme thème sur les panneaux et quelle infrastructure on peut y trouver peut-être sur ce sentier?
D'accord. Alors bien entendu, je vais en parler. Je voudrais juste continuer un petit peu sur le travail qui a été réalisé là sur le sentier, puisque toute la signalétique et ainsi que l'ouverture de fenêtres paysagères, tous ces travaux ont été réalisés majoritairement par les ouvriers forestiers de l'Office national des forêts.
D'accord.
Donc voilà. Ensuite, comme je l'ai dit précédemment, donc c'est un sentier qui a un but éducatif. Et donc en fait, à travers plusieurs points, tout un chacun va partir à la découverte de différents arbres et apprécier la diversité des paysages en s'imprégnant de l'histoire du lieu. Donc c'est-à-dire que sur une relative courte distance, on va dire, parce que le sentier peut se parcourir aisément en famille.
Oui.
Donc il fait 2,2 km pour être précis. Et il se parcourt en 1h20. Je dis qu'il peut même se parcourir avec des enfants en bas âge, puisque suite à l'inauguration du sentier que nous avons fait le mois dernier principalement avec les élus locaux, accompagnés par la charte forestière et tous les intervenants, on a pu l'après-midi le parcourir assez aisément avec les scolaires et notamment les enfants qui sont en classe de maternelle.
Oui, 4 et 5 ans.
Donc c'est un sentier assez facile à pratiquer. Et du coup, qu'est-ce qu'on y trouve comme essence dont tu parlais ?
Alors, comme essence, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que tout un chacun vienne le découvrir par soi-même, et pour qu'il y ait un peu aussi cet effet surprise. Après, ce que je peux dire pour justement amener tout un chacun à venir, c'est de dire qu'il y a une diversité d'essences qui est très intéressante, que ce soit en feuillu ou en résineux. Donc bien entendu, on va y retrouver le châtaignier, hein, qui est l'essence emblématique des Cévennes. Et après, on va retrouver également une diversité d'essences, que ce soit en feuillu, avec de l'alizé terminal, le bouleau verriqueux, En termes de résineux, on va retrouver le cèdre, le pin maritime, évidemment. Et voilà, et toute une diversité d'essences. Je me permets aussi d'ouvrir une parenthèse, puisque il a été aussi planté un sujet de pin de Salzmann suite à une plantation qui a été réalisée avec les scolaires en 2019. Toujours dans cette forêt de la communauté de communes.
Oui.
Pourquoi le pin de Salzmann ? Parce qu'il est appelé aussi pin de Cévennes et que c'est une essence qui est amenée à disparaître, si je peux dire ça comme ça. Et donc, il a été fait le choix de prendre des greffons sur la commune de Mialet. Et ces plants donc, ont été élevés dans une pépinière de l'ONF qui se situe à Cadaran.
Oui, voilà. C'est vrai, ouais, c'est l'essence, l'une des essences les plus rares en France. On le trouve qu'à cet endroit aujourd'hui. Donc oui, c'est voilà. Et puis c'est une essence du coup qui est assez intéressante. Hein. Les forestiers nous disent souvent quand même par rapport à sa résistance à la sécheresse et son adaptation à différents sols.
Okay, oui, bien voilà. Sûr. Et puis, l'objet, c'est de préserver aussi cette ressource génétique.
Oui.
Donc, je me permets aussi de dire que ce travail a été mené, bien sûr, en lien avec la communauté de communes qui est propriétaire, mais aussi avec l'animateur du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet, où on se trouve, et aussi avec un suivi de l'INRAE d'Avignon.
Ah, très bien. Eh ben, on salue Luc Capon au passage, voilà, le chargé de mission. Et il y a Lucille me parlait aussi d'une essence un petit peu exotique qu'on peut trouver sur le sentier, un bonsaï.
Un bonsaï.
je dis pas de bêtises.
Géant même.
Ah, qu'est-ce que c'est ?
Alors, oui, effectivement, ça peut surprendre. Alors, comme je disais précédemment, ce que j'aimerais, c'est que tout un chacun, adulte, enfant, vienne découvrir sur site ce bonsaï géant.
Ah oui, c'est
J'ai pas envie de donner l'essence. Ce que je peux dire, c'est que c'est un arbre qui pousse à un endroit et qui s'est développé à un endroit qui est très particulier.
Ah, d'accord. Bon. Alors,
voilà, c'est un très bel arbre.
Voilà, comme invite Frédéric, donc il faut aller à Saint-Étienne pour le rencontrer.
Pour voir le bonsaï géant.
Voilà.
Et moi, j'aimerais bien reparler un petit peu, faire le pont avec Luc Capon, qui est donc l'animateur du site Natura 2000, avec les acacias qui ont été utilisés pour réaliser les panneaux d'information et de découverte sur le sentier. Et ces acacias, ils ont été coupés depuis la ripisylve. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est qu'une ripisylve et pourquoi ils ont été sortis de ce milieu-là ?
Alors oui, bien entendu. Alors je vais parler de la ripisylve parce que c'est quand même un sujet intéressant. Et pour revenir au sentier du Martinet, pardon, pour bien en assurer la promotion, c'est que effectivement on va avoir des plaquettes qui indiquent les arbres, mais aussi en parcourant ce sentier, on va découvrir ou peut-être redécouvrir pour certains, mais on ne s'en lasse pas, un paysage forestier cévenol et aussi un patrimoine historique assez intéressant à découvrir sur place. Voilà. Voilà, c'était pour revenir un petit peu au sentier. Maintenant, pour la ripisylve, alors bien sûr, alors je vais en donner déjà une définition assez rapide. Donc la ripisylve, c'est quoi ? C'est une végétation qui borde en fait un milieu aquatique. Et donc ici, c'est une végétation qui borde plus particulièrement les berges du Gardon, en l'occurrence celui de Sainte-Croix-Vallée-Française, qui abrite une végétation typique de plantes herbacées, d'arbustes et d'arbres de bord de rivière. Voilà. Et donc la ripisylve, mis à part cette végétation qu'on peut y retrouver, cette ripisylve, elle possède un rôle épurateur important. Et les plantes qui la composent ont des grands besoins en eau et peuvent supporter les inondations régulières dues aux crues. Voilà, ce qui est quand même intéressant en lien avec les épisodes cévenols qu'on peut subir. Voilà, ça c'est important aussi de préciser que la ripisylve joue un rôle fondamental dans l'écosystème de la rivière, car la nourriture qu'on peut y retrouver est assez intéressante en lien avec la décomposition des parties végétales, feuilles, tiges et débris ligneux. Oui. Voilà, et c'est une cache aussi importante et intéressante pour la faune locale. Et... Alors ici, présentement, donc on est sur un point qui est bien identifié sur le sentier avec un point de vue intéressant. Et là, cet endroit, on va retrouver aussi des essences d'arbres dominantes, comme l'aulne glutineux, le saule et le frêne commun.
D'accord.
Voilà, j'espère avoir été assez précis.
Et on a plein d'informations sur ces essences d'arbres, pardon, sur la plaquette qui est diffusée par l'Office de tourisme. Et d'ailleurs, les enfants ont adoré. On avait fait une balade avec eux où tu leur avais présenté tous ces arbres-là. Et ils ont appris plein de choses.
Oui, oui, oui. Je précise, comme tu le dis, puisque tu parles de la plaquette, cette plaquette, on peut, bien entendu, tout le monde peut se la procurer dans les sites de l'office des offices de tourisme locaux, et notamment à celui de Saint-Étienne-Vallée-Française.
Oui. Très bien. Et donc c'est la communauté de communes qui gère donc ce sentier, qui est responsable de son entretien.
Oui, alors la communauté de communes effectivement est propriétaire de ce sentier, hein, puisqu'il se situe en forêt de la communauté de communes. Et donc après l'ONF est gestionnaire. Donc l'ONF, en lien avec le document d'aménagement, fait des propositions de travaux, et ensuite c'est le propriétaire qui décide, hein, bien entendu, mais des travaux peuvent être réalisés aussi comme ça a été fait précédemment par les employés intercommunaux.
D'accord. Et du coup, alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux projets autour du sentier prochainement? Est-ce que c'est à l'ordre du jour?
Alors l'objectif actuel pour lequel tout le monde a adhéré, hein. Quand je dis tout le monde, c'est l'Office du tourisme, la charte forestière, la communauté de communes, en lien avec l'Office national des forêts. C'est justement d'apporter une dynamique à ce sentier et que tout un chacun vienne le parcourir. Voilà. Oui. Vienne le parcourir et surtout vienne aussi profiter du site, parce que mis à part le sentier, on va retrouver aussi une aire de pique-nique au départ du sentier, et aussi un endroit très intéressant qui s'appelle la cascade du Martinet, qu'on peut visiter, bon, on va dire, toute l'année, mis à part dans les périodes de crue, bien entendu, où il ne faut pas s'y rendre pour des raisons de sécurité. Mais sinon, en été, c'est un endroit de baignade vraiment très joli et très apprécié.
Très bien. Ouais. Donc, pour retrouver ce sentier de randonnée, vous avez parlé, Lucille et toi, de la plaquette. Donc, on peut la retrouver sur Internet, c'est ça?
Alors, effectivement, pour en avoir discuté avec Charles Pack, qui travaille à l'Office du tourisme, normalement, on devrait pouvoir la retrouver sur le site de l'Office du tourisme des Cévennes au Mont-Lozère. Et quoi qu'il en soit, on peut se la procurer en format papier, entre guillemets, dans les sites locaux de l'Office du tourisme et notamment à celui de Saint-Étienne-Vallée-Française, qui se situe à côté de la mairie du village.
D'accord. Donc rendez-vous sur, si vous voulez aussi le voir de manière numérique, sur www.cévennes-montlozère.com.
Ah, d'accord. Très bonne précision.
on termine avec un petit mot forestier, Frédéric?
Oui, alors, si vous le permettez, parce que à l'endroit où je suis, j'ai un poème qui me plaît beaucoup. Donc, bien sûr, je ne vais pas lire la totalité du poème, mais si vous le permettez, si ça vous convient, je vais en lire deux passages.
Oui, merci, oui.
Alors, c'est un poème de Victor Hugo, Aux arbres. Arbre de la forêt, vous connaissez mon âme. Au gré des envieux, la foule loue et blâme. Vous me connaissez, vous. Vous m'avez vu souvent. Seul dans vos profondeurs, regardant et rêvant. Voilà, ça c'était le premier passage que je souhaitais partager avec vous. Mmh. Ensuite, je vais vous lire une deuxième strophe, si vous le permettez aussi.
Ah oui.
Et pour terminer, arbre de ces grands bois qui frissonnaient toujours, je vous aime. Et vous, hier au seuil des entresourds, ravin où l'on entend filtrer les sources vives, buisson que les oiseaux pillent, joyeux convives.
Merci Frédéric Gall pour cet hymne à l'amour, à la forêt.
Alors merci pour le temps d'écoute. Merci à Radio Barthas pour nous avoir donné la possibilité de présenter ce sentier. Et en espérant avoir donné l'envie et la motivation de venir découvrir ce sentier merveilleux qui se situe en vallée française dans les Cévennes lozériennes.
Bertrand.
Je vous dis à bientôt.
Oui.
Et je vous invite à venir aussi dans cette période de l'année pour découvrir les Cévennes avec des paysages qui sont actuellement formidables. Des paysages d'automne exceptionnels en ce moment avec des couleurs magnifiques.
Eh ben merci. Ouais, rendez-vous merci. Pris ce week-end alors.
Avec la coordination de la Charte forestière de territoire Sud-Lozère, nous avons organisé un événement autour du Sentier du Martinet. En partenariat avec les différents partenaires que Frédéric Gall a pu vous évoquer, nous avons réalisé l'inauguration de ce sentier et sa réhabilitation le 12 octobre dernier. Donc on a pu enregistrer les élus de la communauté de communes, des communes et départementaux qui sont venus visiter le sentier le matin et l'après-midi. On a reçu donc les scolaires, comme le disait Frédéric également. Donc on vous propose d'écouter les différents échanges qui ont pu avoir lieu le long du sentier et qui cette balade qui a été animée par Frédéric Gall.
Donc là, on est sur le Stevenson, en fait, hein,
voilà, ouais.
Qu'on reprendra après, là, sur le retour. Là. On fera cette boucle pour arriver ici. Là.
D'accord.
À l'automne, quand on prend du recul, on voit le feuillage là, qui change de couleur depuis Saint-Étienne-Vallée-Française. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'aspect paysager. Et je me permets de l'évoquer parce que c'était aussi un choix des élus et de la communauté de communes, justement de mettre en valeur là ce paysage. Quoi.
Donc vu de l'extérieur du coup.
Vu de l'extérieur, en prenant okay. du recul. Ouais.
Super. Ouais.
Bel okay. impact paysager. Ce qu'on va faire d'ailleurs, mais si un jour vous avez l'occasion de monter par là, donc on rejoint le col Saint-Pierre par là.
Ouais.
Et là le chemin, à un moment donné, il traverse une zone rocheuse. Et
je
puis. Ouais. Et il y a un petit canal là pour l'évacuation de l'eau qui a été taillé dans le rocher, c'est fabuleux. Mmh. Ça c'est vraiment notre patrimoine.
Ça date de quand? On sait
1692.
Ah, on sait heure, exactement même, ouais.
Quelle heure?
je peux te donner le jour.
D'accord.
C'est une décision prise par l'intendant de Baville en 1692 de créer des chemins royaux qui permettent aux dragons du roi d'amener des canons et de marcher en rang par quatre pour sécuriser les Cévennes qui étaient à feu et à sang depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
Donc le gabarit, entre guillemets, était fixé par ça.
Ah, il y avait un cahier des charges que l'ONF ne...
palierait d'envie si vous voyez. Non, c'est pas un cahier des charges
non, mais pas
sur,
souci.
Sur la taille des...
Vous enregistrez
sur l'inclinaison de manière ouais. à ce que les moyeux de charrettes n'aillent pas s'arracher.
Ouais. C'est ce que j'allais vous dire.
C'est pour ça que vous voyez une inclinaison comme ça sur le côté.
Avec des pierres plantées là, comme ouais. ça.
Pour chasser la roue.
Ouais. Chasser la roue. Ouais.
Les buts à roue.
Les buts à roue, ouais.
Ouais.
Les buts
ouais.
à roue.
Et le dessin que vous voyez là, la coupe, vous pouvez la retrouver sur d'autres chemins. On a la même chose à Saint-Romand sur ce qu'on appelle le chemin de Capoue qui descend sur la vallée Borgne. C'est le chemin qui allait de Saint-Hippolyte-du-Fort à Barre des Cévennes. Et
celui-ci, il montait de Saint-Jean, parce que la route de la vallée n'existait pas. On montait de Saint-Jean pour arriver au col de Saint-Pierre, où il y avait l'église de Saint-Pierre du Pas-de-Dieu, et on redescendait sur Saint-Étienne pour aller à Saint-Germain retrouver le célèbre abbé du Sheila. Voilà. À Saint-Romain, c'était une entreprise de bar des Cévennes, et elle a fait faillite, et finalement, c'est pas elle qui a fait le boulot. C'est une entreprise de enfin une entreprise, c'est pas la même chose aujourd'hui. Hein. C'est une équipe de Saint-André de Valborgne qui est venue faire le boulot. Alors, depuis le début de la descente, le sentier a quitté la piste moderne et emprunté l'ancienne route royale, aménagée de Saint-Étienne-Vallée française au col de Saint-Pierre au XVIIe siècle. Il s'agissait pour le pouvoir royal à cette époque de mieux contrôler les Cévennes, agitées par les tensions religieuses nées de la révocation de l'édit de Nantes, interdisant la pratique du culte protestant. Remarquez le soin particulier avec lequel le schiste a été taillé à la main, dégageant un caniveau au pied des rochers.
Ça, on va le retrouver visuellement un petit peu plus bas, là. Donc il a été fait le choix de présenter le pas de Salzmann là dans ce sentier. Donc il y en a deux qui ont été plantés.
Voilà. Celui-là il a souffert. Hein.
Là, il est plus gris que noir. Oui.
Celui-ci là, il est aussi appelé pain des Cévennes.
Ouais. Voilà. Alors qu'est-ce qui le distingue? Comment on l'identifie?
Ah, ces aiguilles.
C'est donc c'est la longueur des aiguilles.
La longueur des aiguilles, bon, c'est un Pinus nigra, déjà c'est important. Ouais, ce qui est caractéristique aussi, c'est les bourgeons, ici qu'on voit. Oui. Les aiguilles aussi, assez longues, comme ça.
Oui.
Voilà. Quand il n'y a plus de feuilles, et tu vois les feuilles de châtaignier, là je me disais, j'ai un problème.
C'est pour ça qu'il a été fait le choix de rajouter un petit carré sur chaque arbre indiqué.
Je comprends. Disons que techniquement, à la limite, on tomberait le petit châtaignier qui est derrière. Au moins, tu gardes vraiment le prunus, parce que là, tu es phagocyté par les feuilles aussi bien dedans. Regarde, toutes les feuilles de châtaignier viennent au milieu de l'arbre.
Là, c'est intéressant ce que vous dites. Ouais.
Parce que là, c'est... Moi, ça m'a choqué. Quoi.
On le coupe.
Enfin, choqué, je survivrai. Hein.
C'est quoi comme château?
C'est le château Saint-Étienne, château de Cambière.
Un château à Saint-Étienne.
C'est l'axe de la vallée française, c'est ça. Les Saint-Germain et le Bougès sont complètement au fond. Là-bas.
Ah oui.
Tout le monde du Bougès. Le Ventalon avec les antennes là-haut. Ah, un axe intéressant.
Ah ouais. Hein. C'est fondamental.
D'accord. Croisement des gardons. Là, on comprend l'importance stratégique du château. En fait. C'est-à-dire que vraiment, il domine vraiment les deux gardons, en fait. Le gardon de Saint-Martin et Saint-Germain et le gardon de Sainte-Croix. En fait. Là, on est sur l'axe stratégique, quoi.
Ouais, mais il est bas, quand même, pour un château. Bon, c'est pour surveiller la rivière, ça va, mais...
Oui, mais il y avait le village, pour le château. C'était pas qu'une tour de défense. Hein. Ouais.
Pour accéder au sentier du Martinet, depuis Saint-Jean-du-Gard, il suffit de prendre la route départementale 983 qui vous amènera jusqu'au parking au lieu-dit le Martinet, point de départ de ce sentier. Okay. Et depuis Sainte-Croix-Vallée française, venir en direction de Saint-Étienne-Vallée française, puis au parking du Martinet.
Merci Frédéric, au revoir.
Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci, au revoir.
On est toujours sur Radio Barthas 107 FM et on va faire une pause musicale avec le groupe NTM et leur chanson Come Again pour que ça sonne funk.
Simple rappel, je ne suis en aucun cas politicien tout au plus. Chroniqueur, simple reporter, tu m'entends, le feu, le virus de la rumeur. Ceci étant dit, là n'est pas mon seul hobby. Je suis aussi fier de faire partie de la clique des MC hostiles atypiques qui chantent, vivant au rythme de la musique de notre époque. Le rythme est soul, jazz ou funkadélique. Je glisse mes rimes dessus de façon magnifique, c'est clair. Je dirais même c'est limpide comme une coupure cool chain. Come again, come. Laisse-moi s'en faire des fonds.
m'a pris par l'envie d'un instant funky. Non pas de face ici, mais plutôt de la basse. Un rythme qui tabasse, manette à fond, ça décrasse. Secret de l'espace, c'est la thérapie que je suis depuis tout petit. Sans le comprendre, j'en étais déjà épris. J'en avais déjà l'envie, ne me doutant pas que ceci tracerait ma vie, me permettant d'échapper à l'ennui.
J'en ai pour toute une vie.
So funky, que je suis. Vous ne m'avez toujours pas remis. Garnel, ça servait pour toute la décennie. Contre la perfidie qui jette des crédits.
L'infra-fond.
Vous avez dit funk, et là je reviens comme un tank sur ce groove qui tombe. Voici le New Gorgon, quoi qu'il advienne, il come. Come again, come.
C'est critique.
Comme quoi le simple serait le sida de la musique. Diagnostic morbide, anachronique et stupide. Émanant sûrement d'un loser marqué par les rides. Bon, très peu de plaisanterie, je veux des
fonds.
Je veux que ça swing encore si possible. Donc, mettez de côté le côté borné qui vous caractérise. Le rap est un bol d'air pur, un coup de
bruit
phénoménal. Le fouet monumental, deux cas de figure, bien sûr, le bien, le mal.
Certains critiques,
d'autres plus malins prennent notre
technique.
Même Mick Jagger a fait un hit avec un
fuck epic. Alors,
qui conteste, qui change de port à l'heure où des rockstars évitent de la mise à mort
grâce,
notamment à l'apport du simple redel. Le hit en prend sa place et se révèle encore. Beaucoup plus créatif dans tous les domaines, que ce soit les textes free ou les textes à thème. J'aime quand la mélodie m'amène sur des rythmes pour que comme, come again, come.
Pour que ça sonne. Laisse-moi s'en faire des fonds, pour que ça sonne fort.
Nous alors, vous êtes toujours sur Radio Barthas 107FM et nous rejoignons Aymeric Suleman, garde-moniteur au Parc National des Cévennes. Alors aujourd'hui, donc, on vient de parler du Sentier du Martinet à Saint-Étienne-Vallée-Française et toi, tu as choisi de nous parler du genévrier.
Oui, j'ai choisi cette espèce parce que c'est pile poil la période où on peut commencer à ramasser les baies bleues que tout le monde connaît. Peut-être.
Oui.
D'ailleurs, on appelle ça des baies, mais c'est pas vraiment des baies.
Non.
Puisque comme c'est issu d'un conifère, le genévrier est un conifère, un petit conifère, on devrait appeler ça des cônes. C'est des cônes,
oui.
En fait.
Ah oui.
Et voilà, enfin, ça, c'est le petit détail. Et donc, oui, voilà, l'autre jour, j'ai me retrouvé sur une crête de Cévenoles où c'était constellé de jeunes arbres, enfin, pas de jeunes, de vieux genévriers, puisque c'est un arbre qui est très longévif. Et j'ai pensé à cet arbuste qui est bien, voilà, qui est bien de saison. C'est maintenant qu'on le récolte. Alors, avec une petite astuce pour le récolter, parce que comme c'est, les aiguilles sont très piquantes.
Oui.
Je conseille le parapluie japonais.
Mais
qu'est-ce qu'un parapluie japonais?
Oui.
Non, mais un parapluie normal fait l'affaire aussi. Et le parapluie japonais, le manche est sur le côté. Sur le côté du parapluie. Donc ça peut se tenir à l'horizontale. On met ça sous l'arbuste et on tapote un peu les branches pour faire tomber les baies mûres à l'intérieur du parapluie. C'est très pratique. Voilà, ça c'est la petite astuce pour récupérer des baies de genévrier. L'arbre, je pense que tout le monde l'a vu, je l'appelle ça un arbre, officiellement les arbres ça dépasse 7 mètres, c'est vraiment un arbuste, mais c'est un végétal ligneux, si on peut dire. Et il a plein d'intérêts, souvent rien que sa présence en fait dans les pelouses des causses, les sommités du Mont Lozère ou les crêtes Cévenoles. Ça signe quelque chose, ça signe que cet endroit-là n'a pas été brûlé, n'a pas été replanté et n'a pas été cultivé. Donc c'est souvent un indicateur finalement de longue continuité de stabilité du milieu.
Oui.
Et ça, ça reste intéressant parce que on va pouvoir trouver éventuellement d'autres végétaux, des champignons, des lichens, des mousses dans ces endroits-là qui n'ont pas subi de flammes, qui n'ont pas subi trop de perturbations humaines. Voilà en quoi le genévrier est intéressant. Et c'est le cas dans la plupart des endroits où le genévrier pousse dans le monde, avec des espèces à chaque fois différentes, mais à chaque fois on retrouve ce point commun sur les milieux. C'est des espèces très longévives et qui signent une certaine stabilité des milieux. Sur, en général, des milieux extrêmement pauvres où ils ont très peu de concurrents, évidemment, puisque ça pousse quasiment sur le rocher. Voilà, on parle du genévrier commun ici, sachant que sur le sentier du Martinet dont on vient de parler, c'est surtout le cad qui domine, mais le genévrier commun est présent aussi. Alors la petite astuce que vous apprendrez plutôt sur le sentier pour différencier le genévrier commun du genévrier cad, il y en a plein, il y en a une qui s'intéresse les aiguilles de genévrier. Le genévrier commun, il y a une seule trace de ski. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du snowboard. Il y a une petite bande blanche sur la feuille de ski. Et chez le genévrier cad, il y a deux traces très nettes. Deux traces blanches sur les feuilles. Ah, voilà, c'est le truc qui permet de le reconnaître. Ensuite, le genévrier cad, il fait des baies beaucoup plus grosses, qui sont plutôt marrons, et qui ont moins cette saveur acidulée et un peu sucrée, légèrement amère aussi, du genévrier commun. Alors, je reviens un peu sur les propriétés de cette baie, parce que je trouve ça assez génial. On raconte plein de choses dessus. Alors, vous savez qu'on en met dans la choucroute. Et vous savez pourquoi on en met dans la choucroute? Alors, je sais pas si c'est juste pour faire bon, mais il se trouve que ça préserve des flatulences de manger des baies de genièvre.
Bah, okay.
Et comme le chou est un peu générateur de flatulences, voilà. Donc, ça s'équilibre. Très utilisé aussi dans les salaisons. Ça donne un bon goût. Moi, j'en avais essayé sur du magret séché. C'est délicieux, accompagné de poivre. Voilà, je vais pas vous donner des recettes. Oui. J'avais quand même envie de vous lire un petit passage de toujours ma Bible sur les médicinales. Vous allez avoir plein de noms. Donc, je connais pas toujours la définition, mais les fruits du genévrier sont stimulants, toniques, stomachiques, diurétiques et diaphorétiques. Diaphorétiques, je viens de regarder, c'est qui provoque la sudation. Qui fait suer, tout simplement. À petite dose, ils localisent leur action sur l'estomac, ils excitent l'appétit et dissipent les flatuosités, c'est ce que je viens de dire. Ils facilitent la digestion. Et à dose plus élevée, ils agissent sur toute l'économie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire l'économie à cette époque-là, mais provoquent l'exaltation cutanée, modifient les sécrétions muqueuses et excitent tout spécialement les organes sécrétaires de l'urine, à laquelle ils communiquent une odeur de violette. C'est ça qui est intéressant.
D'accord, oui.
Voilà. Si vous avez mangé des asperges, par exemple, et que vous trouvez que l'odeur... mangez des baies de genièvre et ça passe.
Okay.
Ça sentira la violette.
Ouais.
Bon, c'était un petit anecdote que je trouve amusante. qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet arbuste? Ah oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire parce que tout le monde l'a déjà croisé. Très bientôt, là on vient d'avoir pas mal de pluie sur les Cévennes, certains arbres qui sont situés en crête en général vont se couvrir d'un champignon tout à fait extraordinaire qui ressemble à un corail orange. Et qui est disposé dans les branches un peu épaisses à l'intérieur du tronc, donc assez discret, mais parfois il est abondant au point que l'arbre se couvre là d'orange.
D'accord.
Et ça fait plein de... vraiment comme un corail.
Il revient chaque année?
C'est un champignon qui ressort dès qu'il y a eu des grosses pluies, plutôt fin d'automne, hiver. Et ce champignon est tout à fait étrange parce qu'il a deux cycles de vie. Un cycle de vie sur le genévrier, et un autre cycle de vie sur des rosacées. Il va former des rouilles, en fait, sur le feuillage de la mélanchier, des sorbiers, des aubépines qui sont dans les parages. Et donc, pour que ce champignon puisse vivre, il faut qu'il ait à la fois les deux hôtes, à la fois le genévrier et à la fois des rosacées. C'est assez original. Mais je pense que si un jour vous croisez des ce qu'on appelle des matorrales à genévrier qui sont couverts de corail orange, vous vous souviendrez de ça. C'est un champignon très très original. Voilà, je passe, parce que je crois que j'en avais déjà parlé, hein, des cousins du genévrier, notamment le genévrier des Phéniciens, qui est extrêmement longévif, puisque c'est probablement l'arbre le plus vieux de France. Je crois que j'en avais déjà parlé, ça vous rappelle rien?
Malheureusement, non. Combien l'âge?
Eh bien, donc déjà, les genévriers, oui. C'est pas nécessaire de les couper pour connaître leur âge, mais quand on trouve des genévriers morts, on peut faire des tranches et s'amuser à compter les cernes. Oui. Elles sont extrêmement serrées, puisqu'ils vivent dans des endroits extrêmement pauvres. Oui. Et sur un tronc de 10 cm de diamètre, on compte facilement 150 à 200 cernes. Et chez le genévrier de Phénicie, il y a des étudiants d'un BTS-GPN sur Aubenas qui avait largement étudié cette espèce dans les gorges de l'Ardèche et qui avait mis en évidence des genévriers qui dépassaient 2000 ans. Donc c'était un genévrier mort, tombé au pied d'une falaise des gorges de l'Ardèche et qui, ils ont compté, alors c'est un... Le tronc faisait même pas 20 cm de diamètre et ils ont mis plusieurs heures à compter les cernes. Il fallait d'abord le préparer, le polir, etc. Mmh. Donc c'est par extrapolation, ils sont imaginés que sur les milliers de genévriers phéniciens qui peuplent les gorges de l'Ardèche, il y en avait très probablement des arbres qui dépassaient peut-être même 3000 ans. Voilà, donc ça, c'est les forêts les plus vieilles de France, même si on peut pas vraiment appeler ça des forêts, mais en tout cas, c'est des végétations ligneuses de falaises qui sont avec des arbres assez extraordinaires. Ouais. Voilà, le cadre et le genévrier commun sont moins longévifs, certes, mais ça dépasse très, très souvent 200 à 300 ans. Ce qui, rien qu'à l'échelle des Cévennes, forme parmi les végétations ligneuses les plus anciennes, puisque même nos sapinières et nos hêtraies n'ont pas d'arbres forcément aussi vieux que ces genévriers. Voilà, alors pour terminer, j'avais envie de vous présenter un tout petit bouquin que j'invite les auditeurs à se procurer. Ça s'appelle « Le petit langage des fleurs » aux éditions de l'Aube. Et cet ouvrage, c'est une autre façon de regarder les plantes et une autre façon peut-être de communiquer à son amoureux ou à son amoureuse. Et si on fait des bouquets de plantes, le petit langage des fleurs vous donne le message caché qu'il peut y avoir derrière chacune des plantes que vous offrez. Alors, des bouquets en hiver, c'est pas facile. On aurait à la limite la colchique et qui vient de terminer sa floraison. Et encore, c'était il y a déjà quelques semaines. Mais si vous offrez de la colchique, qu'est-ce que ça veut dire, la colchique?
C'est mutagène, la colchique, non?
Alors déjà, les colchiques, c'est une plante toxique. Hein.
Oui.
Mais si t'offres des colchiques, ça veut dire « mes beaux jours sont passés ». Donc, comme c'est une plante d'automne, évidemment, c'est...
Ouais.
Voilà, en gros, la belle saison est passée.
Message pas super.
Et si tu offres des genévriers, donc ça signifie que tu demandes l'asile ou le secours.
Ah.
Et pourquoi? Parce que le genévrier abonde en sucre résineux, ses fleurs sont peu apparentes, ses feuilles hérissées aiguës servent de refuge aux lièvres poursuivis par les chiens. Car l'odeur forte qui s'exhale de toutes les parties de cet arbrisseau les met en défaut. La plupart des oiseaux frugivores, notamment les merles et les grives, recherchent avec avidité les baies de genévrier, et cette nourriture donne à la chair du gibier une saveur exquise. Oups. Voilà, bon.
D'accord.
J'arrête là. Mais voilà pourquoi, donc, à chacune des espèces, il y a une justification plus ou moins tiré par les cheveux pour expliquer pourquoi le gui, si je vous donne un autre exemple, puisque c'est une plante de saison, je surmonte tous les obstacles, parce que c'est effectivement une espèce qui s'accroche de manière acharnée à son hôte, et voilà.
Et ben...
Je réutiliserai ce bouquin, je vous raconterai d'autres histoires. On peut faire toute une phrase en associant les espèces.
Ah, ben...
C'est très très drôle.
Ah, parfait, alors, pour de prochaines émissions.
On fera des bouquets.
Et des charades.
À thème.
Des couronnes de fleurs. Merci, Aymeric.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Nous achevons du coup cette émission avec... une petite annonce, cette fois-ci, qui concerne Mademoiselle Lucille Soquet.
C'est ma dernière.
Et oui.
Merci à tous. Merci à tous les auditeurs. Merci Virginie, Corto, Aymeric, tout le monde. Voilà. Merci.
Voilà, parce que donc, Lucille, tu vas quitter le PETR Sud-Lozère et la Charte forestière pour t'en aller vers de nouveaux projets. J'ai cru entendre peut-être un jour avec de grands primates. Voilà, donc bon, la forêt Cévenole, voilà, ne fera pas la charte pour ça.
Voilà.
Merci.
Merci beaucoup, merci Virginie.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 9h
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.